Bienvenue dans le 7-9, nous sommes le vendredi 15 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, c'est tout un symbole. Le navire amiral de la flotte russe en mer Noire a sombré cette nuit. Nous sommes à Moscou dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Nous serons aussi dans le Donbass avec nos envoyés spéciaux qui ont rencontré des civils résignés qui attendent l'offensive russe. La campagne présidentielle et qui pour gouverner avec Emmanuel Macron en cas de victoire, ce sera sans Jean Castex et avec un gouvernement renouvelé. Enfin, les suites de Bach pour violoncelle, toujours d'actualité. Nouvelle intégrale très émouvante qu'a écouté pour nous le service culture.
Invités et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45. Le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, analyse des programmes économiques d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'historien, sociologue, professeur émérite au Collège de France, Pierre-Rosan Vallon, qui dialoguera avec vous. Alors, dirigez-vous vers le standard qui est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Touché hier, coulé cette nuit. Le croiseur Moskva, vaisseau amiral russe en mer Noire, a sombré. L'armée l'a annoncé peu après 22 heures. Revers important pour la marine de Poutine. Symbole aussi, c'est ce navire qui, face à une poignée de militaires ukrainiens sur une petite île au début de la guerre, leur avait intimé de se rendre, se voyant répondre par radio d'aller se faire voir. L'événement, on s'en souvient, avait fait le tour du monde. Il figure d'ailleurs sur un timbre post-ukrainien. Le Moskva aura donc fait naufrage moins de 2 mois après le début de la guerre lors d'une tentative de remorquage à Moscou, Sylvain Tronchet.
Apparemment, les dommages subis par la coque du Moskva étaient trop importants pour permettre son remorquage vers son port d'attache de Sévastopol. C'est en tout cas ce qu'explique le ministère de la Défense russe qui attribue les dégâts à un incendie dû à la détonation de munitions à bord quand Kiev affirme avoir touché le navire amiral de la flotte de la mer Noire avec 2 missiles Neptune. Le Moskva était, quelle qu'en soit les raisons, trop handicapé pour pouvoir naviguer dans une mer houleuse. Il a donc probablement chaviré avant de couler. Son équipage avait été évacué, affirme la marine russe, qui n'a pas donné de bilan humain. Ce naufrage est de toute façon un affront pour la marine russe qui était censée avoir assuré sa supériorité en mer. Elle avait déjà perdu un navire de débarquement touché par un missile dans le port de Berdiansk. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Quelles conséquences ces 2 destructions de bâtiments militaires peuvent-elles avoir sur la suite? Un revers militaire majeur certainement et peut-être une humiliation supplémentaire, analyse le général Dominique Trinquant.
La Russie avait coulé la petite flotte ukrainienne qui n'était pas très importante. Et donc, on pensait qu'elle allait pouvoir régner sur la mer. Que les Ukrainiens aient réussi à tirer d'abord sur ce bateau montre qu'ils ont perfectionné les systèmes, puisque c'était des missiles à l'origine russes qui ont été modifiés par les Ukrainiens. Donc, le bateau qui assurait surtout la défense antiaérienne de la flotte n'a pas pu assurer sa propre défense. Et des coups qui ont visé les dépôts de munitions à l'intérieur du bateau, qui a fini par couler, est un coup remarquable de la part de l'Ukraine et qui va désorganiser la flotte russe au large d'Odessa.
Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU, ce déboire pour l'armée russe laisse craindre une escalade du conflit. Plusieurs signaux sont regardés avec inquiétude. La CIA pense que face à ces revers, Vladimir Poutine et les dirigeants russes pourraient sombrer dans le désespoir et recourir à l'arme nucléaire. Autre signe, les affirmations invérifiables pour l'instant du Kremlin qui accuse l'Ukraine de bombarder des villages en Russie, peut-être un prétexte pour justifier une attaque contre des bâtiments officiels à Kiev. Car pour l'instant, Mariupol n'est toujours pas tombée. L'offensive majeure annoncée dans le Donbass n'a toujours pas commencé, même si les villes proches de la ligne du front sont régulièrement ciblées par l'artillerie. Nos envoyés spéciaux, Marouaman et Gilles Gallinaro, ont rencontré à Lysychansk quelques rares civils résignés.
Lysychansk est une ville marquée par des années de guerre. Les traces des bombardements sont partout, les immeubles criblés d'impact. C'est dans ce paysage de désolation que Lydia est sortie quelques minutes pour donner à manger à des chiens abandonnés par ceux qui ont fui en direction de l'ouest du pays.
Hier, un homme est mort là, juste à l'angle. Il a été tué lors d'un bombardement alors qu'il allait vers l'abri souterrain. Ça, c'est une bombe, je ne sais pas ce que c'était exactement, mais elle vient d'exploser. J'ai peur, donc je vais nourrir les animaux et je rentre chez moi. Avant, c'était magnifique, paisible et formidable.
Nina avance péniblement en direction de son immeuble où elle est née il y a 61 ans. Elle fait partie des rares civils encore présents dans la ville.
Et aujourd'hui,
La situation est horrible, je ne peux même pas la décrire. On peut mourir à n'importe quel moment et n'importe où. C'est un cauchemar. On survit grâce à l'aide humanitaire. On manque de médicaments, de nourriture, mais on s'en sortira. Poutine va se casser les dents et elles vont rester coincées dans sa gorge.
Et pour freiner cette offensive annoncée des forces russes, l'armée ukrainienne renforce chaque jour un peu plus ses positions. Lysychansk, Gilles Gallinaro, Marwoman, France Inter.
Hier, le président français s'est entretenu avec son homologue ukrainien. La France prévoit de retransférer son ambassade à Kiev. La maire de Paris a passé la journée dans la capitale ukrainienne hier à l'invitation du maire. Anne Hidalgo y a rencontré aussi la procureure générale. Encore à l'étranger, des blessés et des heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Jets de pierres de Palestiniens, balles en caoutchouc de la police israélienne. Des violences alors que plusieurs attaques ont lieu ces dernières semaines avec opération aussi de l'armée en Cisjordanie. Nous serons à Jénine dans le journal de 7h30.
Il est 7h06, le duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen continue.
Affrontement par médias interposés ce matin. Matinale de France Bleu pour l'une, France Info pour l'autre. Immersion en région pour l'un et l'autre également. Le candidat En Marche hier au Havre. Premier grand meeting hier soir pour Marine Le Pen à Avignon où elle a appelé à faire barrage à Emmanuel Macron, prenant ainsi à rebours le concept de front républicain. Le front républicain contre l'extrême droite qui avait déjà reçu le soutien de Nicolas Sarkozy. Hier soir, l'autre ex-président François Hollande a lui aussi appelé à voter Emmanuel Macron au nom de la cohésion de la France et de son avenir européen. Et en cas de victoire du président sortant, quelle serait sa nouvelle équipe? On voit ça avec vous, Maxence Lambrac, bonjour.
Bonjour.
Début avril, Emmanuel Macron disait au Figaro qu'il faudrait un sursaut après la présidentielle pour un nouvel élan. Exit donc Jean Castex et il ne sera pas le seul à céder sa place.
En effet, la plupart des ministres feront leur carton. Les départs de Roselyne Bachelot, d'Éric Dupond-Moretti, de Jean-Michel Blanquer, de Frédéric Vidal, de Florence Parly paraissent déjà actés pour des raisons distinctes. À 74 ans et après 10 ans de ministère, Jean-Yves Le Drian devrait lui laisser le Quai d'Orsay.
Mais il y aura aussi ceux qui font campagne pour ne pas partir.
Bruno Le Maire fait tout pour rester maître de Bercy. Olivier Véran veut tourner la page du Covid sans quitter le navire. Gérald Darmanin compte porter la loi de programmation qu'il vient de présenter pour la sécurité. La ministre de l'écologie, Barbara Pompili, se voit aussi rester. Au sport, Roxana Maracineanu aimerait voir les JO. Quand d'autres espèrent monter d'un cran pour service rendu. Le porte-parole, Gabriel Attal. La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin. Celui du budget, Olivier Dussopt. Celui de l'agriculture, Julien de Normandie. Tous les quatre très proches du candidat, comme Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes.
Et Maxence, s'il en garde quelques-uns, Emmanuel Macron l'a dit, il veut faire émerger une nouvelle génération.
Ce qui donne de l'espoir aux députés trentenaires comme Jean-Noël Barrot, Sacha Houlier ou Aurore Berger. La Macronie s'attend à un gouvernement plus politique qu'en 2017. La société civile, on a donné dans sa ministre, au point de reprendre François Rebsamen, Manuel Valls, Éric Woerth, Christian Estrosi. Ça paraît d'un autre âge, lance un jeune aspirant. François Bayrou et Édouard Philippe vont vouloir placer leur relais et tous s'attendent à une femme pour Matignon. Plutôt une femme de gauche, la droite a été suffisamment servie et fracturée, glisse un proche du président. Celles dont on entend déjà les noms circuler ne seront sans doute jamais appelées. Je vous épargne cette liste.
Eh bien merci Maxence Lambrec, service politique de France Inter. Si vous avez du mal à tout retenir, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Eux contestent l'affiche du second tour. Les étudiants qui occupaient la Sorbonne ont fini par quitter l'université cette nuit, peu avant minuit. 30 heures de blocage et de manifestation dans le quartier latin à Paris pour dénoncer ce que les étudiants appellent un faux choix. Ils veulent alerter sur les questions écologiques et sociales.
Des questions au cœur de la campagne, en particulier concernant l'énergie.
Et oui, avec le prix du gaz et les importations russes, comment assurer notre indépendance énergétique tout en respectant le climat? Eh bien, voici un exemple vertueux, une usine de biogaz pour chauffer les logements. À Marseille, l'entreprise Suez traite les boues dans une station d'épuration située sous le stade Vélodrome. Elles sont ensuite transportées vers les Calanques dans une usine d'un nouveau genre. Visite avec Célia Kiré.
Vous êtes ici sur le plus grand site de production de biométhane en France à partir des boues de station d'épuration.
L'image a de quoi surprendre. Cette usine est cachée juste derrière la Calanque de Sormiou dans un décor de carte postale. Ici, les boues de la station stations d'épuration sont digérées dans de grandes cuves par des bactéries. Elles produisent un gaz. Jusqu'en 2019, il était brûlé par une torchère. Aujourd'hui, il est traité et il alimente 2500 foyers. Demain, ce sera même 4000. Se félicite Manuel Nivet, directeur général de la CERAM, une filiale de Suez.
C'est une énergie 100% verte, 100% locale et 100% renouvelable. Plus il y a de population, plus il y a de boues qui sont issues du processus d'épuration et plus nous pourrons augmenter la capacité de production de gaz vert.
Et les déchets restants servent d'engrais pour l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a qu'une vingtaine d'installations de ce type en France, mais la marge de progression du biogaz est très importante pour Olivier Bresson, directeur adjoint de l'entreprise GRDF dans le Sud-Est.
Il y a une capacité d'alimenter plus d'1,7 million de logements neufs en biométhane sur le territoire national. Il y a une très forte dynamique. C'est ce qui nous amène à penser qu'en 2030, il y aura 20% de biogaz dans le réseau de distribution de gaz au niveau national. Et à l'horizon 2050, on sait qu'on aura une indépendance énergétique en termes de production de gaz.
D'après GRDF, en 2050, la production de gaz renouvelable sera même supérieure aux besoins de la population.
Le biogaz et les chaudières à biomasse, à partir d'aujourd'hui, vous bénéficiez de 1 000 euros supplémentaires, quel que soit votre revenu, pour passer d'une chaudière au gaz ou au fioul à une chaudière aux énergies renouvelables. C'est le dispositif MaPrimeRénov. Pour les plus modestes qui choisissent une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse, les aides cumulées peuvent atteindre 9 000 euros. Le mouvement s'étend chez les salariés d'Amazon après l'échec des discussions hier avec la direction pour des augmentations de salaire. Nouvelle série de négociations prévues le 20 avril. C'est un des transferts importants dans le petit monde du rugby. L'arrière du 15 de France, Melvin Jaminet, a officialisé hier son départ de Perpignan pour le Stade toulousain où il a signé pour 3 ans. Allez, si l'on est bassement égoïste, on va se dire que c'est l'un des bons côtés du confinement privé de concerts. Souvenez-vous, les musiciens se sont retrouvés chez eux, désœuvrés, et certains se sont lancés dans des chefs-d'œuvre monumentaux, comme le violoncelliste Bruno Philippe qui a plongé dans l'intégrale des suites de Bach. Résultat, 2 ans plus tard, une version émouvante de ses œuvres, Stéphane Capron.
Ses suites, comme tous les violoncellistes, Bruno Philippe les joue depuis sa tendre enfance, mais il n'avait jamais pris le temps de les travailler avec un tel acharnement jusqu'à étudier les moindres tempi. Bach lui a permis de traverser sereinement cette période étrange du confinement.
Ces suites, elles ont un pouvoir qui est assez démentiel. Au-delà du message universel qu'elles proposent, elles sont intemporelles. Tout un chacun peut se retrouver dans cette œuvre-là. Quand le mur de Berlin chute, Rostropovitch joue devant cette musique-là. Aujourd'hui, guerre en Ukraine, on retrouve un violoncelliste dans les rues de Kharkiv qui joue aussi ces suites-là. Elles sont toujours actuelles. Je n'ai pas l'impression, quand je joue et ou que je vais enregistrer cette œuvre, d'enregistrer des pièces du passé.
Bruno Philippe a construit son interprétation des suites comme le cheminement d'un homme de sa naissance à sa mort. Il s'est plongé dans tous les manuscrits existants, de celui de Magdalena, la deuxième femme de Bach, et celui de Kellner, l'un des plus proches amis du compositeur. Il en ressort un album d'une beauté brute qui révèle à la fois la fragilité du violoncelliste et son authenticité.
Voilà, et on apprend aussi, grâce à vous Stéphane, que le pluriel de tempo, c'est
tempi. Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, secret d'info. Pendant la guerre, les affaires continuent en Russie.